refermer ce journal, cette nouvelle qui nous attriste beaucoup. Aujourd'hui à RFI, la disparition à 63 ans de notre collègue et ami Toufik Ben Aïchouch. Vous entendiez sa voix depuis de longues années sur notre antenne. Toufik Ben Aïchouch, après avoir travaillé pendant quelques années à la Radio Nationale Algérienne, avait rejoint RFI en 1994. Il a d'abord été présentateur, puis grand reporter. Il a couvert notamment le Proche-Orient et l'Afghanistan. Toufik Ben Aïchouch était un collègue que tout le monde appréciait ici pour sa gentillesse, sa disponibilité. Toutes nos pensées vont à sa famille et en premier lieu à sa fille Imane.
Radio G, 101.5 FM. Walking in the midnight sun.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue à l'écoute de l'Oreille Curieuse, la quotidienne culturelle et locale de Radio G. Un jeudi sur deux, on retrouve Benoît et sa chronique Science, Nature et Environnement. Rendez-vous en deuxième partie d'émission pour les actus de la recherche et des idées de sortie, souvent nature. Le jeudi, vous ne le savez peut-être pas, mais j'aime aussi vous parler de formes de vie et d'initiatives locales. Alors aujourd'hui c'est parfait, je vous propose de découvrir le guide « Demain en poche ». Il est édité par l'association En Transition et vous permet de découvrir 350 initiatives solidaires et écologiques, toutes dans le Maine-et-Loire. C'est donc une émission pleine d'espoir, de rêves et d'envie que je vous propose aujourd'hui pour une journée de grève, pour certains et certaines, et pour la dernière de la semaine, pour l'oreille curieuse. Ici Annelie, on est ensemble jusqu'à 18h50, à tout de suite. Alors ce soir, je vous l'ai dit, on parle d'un guide pour un monde plus solidaire, plus écologique, Demain en poche, et je suis avec Mickaël Poirot pour en parler. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup à toi d'avoir trouvé un moment. Tu es co-représentant de l'association En Transition. Et certains connaissent ta voix parce qu'on t'entend un vendredi sur deux sur Radio G, un vendredi par mois même.
Rediffusé un vendredi sur deux, et là, notre prochaine émission c'est Ça c'est climat, et notre prochaine émission ça sera le vendredi 13 décembre à 13h. Voilà, ça dure une heure et on accueille des acteurs de ces initiatives dont on va parler dans notre émission, que ça soit solidaire, écologique, et on parle de l'actualité pour comment on peut se mobiliser dans le Maine-et-Loire.
Et là, avec En Transition, on peut vous retrouver avec un guide. Moi, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé un peu au guide de haute montagne pour découvrir des fleurs, des animaux. C'est assez agréable, en fait, à toucher, à feuilleter. Avant de parler de ce qu'on y trouve, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de En Transition, de l'histoire de cette association, alors qu'elle a été fondée formellement en 2018, mais qui a une histoire bien plus longue?
C'est ça, voilà. Si on remonte à la préhistoire, en fait, je remonte pas à la préhistoire, je raconte juste l'histoire.
En Transition.
Il y a la préhistoire, mais je vais faire court. Je vais commencer à l'histoire et commencer en 2009, il y a 10 ans. Il y avait le sommet mondial pour le climat de l'ONU à Copenhague, les fameuses COP. Hein, il y aura la COP bientôt à Madrid très prochainement. Il y a eu la COP. En France, la COP21 en 2015.
On a beaucoup entendu parler.
Voilà, on a beaucoup entendu parler. Et donc, à Copenhague en 2009, c'était la COP15. Et c'était une des COP où il y avait une grosse mobilisation citoyenne. Donc, on était plusieurs Angevins, Angevines à être allés là-bas. pour faire entendre la voix des citoyens et faire que les gouvernements prennent des responsabilités, ce qui n'avait pas été le cas. Mais on n'était pas revenu bredouille, parce que même s'il n'y avait pas eu d'accord international, ça nous a permis de rencontrer en fait plein d'autres citoyens, citoyennes du monde qui se bougent, qui essayent de faire des choses, et notamment le mouvement des villes en transition, initié au Royaume-Uni, et qui était de voir comment localement ce qu'ils appellent les communautés dans le monde anglo-saxon, les gens d'un village, d'un quartier, pouvaient se mettre ensemble, se mobiliser pour essayer de mettre en place des initiatives. Et ce qui nous a plu, c'était le côté positif, constructif, optimiste. C'est bien à un moment donné de manifester. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont manifesté. Il y a des moments où il faut sans doute le faire. Mais c'est bien aussi de montrer qu'il y a des alternatives, qu'on peut faire autrement, parce que sinon, on peut vite se décourager.
Ouais, on se dit ça bouge pas très vite, je commence à être un peu déprimée.
Exactement.
Et en 2009, il y avait déjà eu un guide auto-édité.
Il y avait une bande d'amis qui avait fait un guide. Une des personnes qui est en transition et faisait déjà partie de ce groupe. C'était un guide qui faisait 80 pages en noir et blanc, qui avait été auto-édité aussi. Et puis, ils avaient pensé à faire une deuxième édition. Et puis, ça s'est pas fait avec les parcours de vie. Certains sont partis pour le travail, d'autres ont fondé des familles. Et c'est tombé un peu en plan. Et du coup, nous, on a conservé cette idée. Et puis, on a continué à faire des choses, souvent sous forme de collectif, donc pour sensibiliser à ces questions de la transition, avec de nombreux événements entre 2009 et maintenant, les forums sociales et environnementales à Montreuil-Bellay, Alternative Loire, notamment en 2015, avec des villages d'alternatives, dans la mouvance d'Alternativa, avant la COP. 1500 personnes, une centaine d'initiatives présentées à Angers. Et puis donc, en 2018, la forme de collectif nous semblait pas suffisante, parce que c'est difficile, chacun a déjà ses propres préoccupations, son agenda, ses problématiques de bénévoles, toutes les associations, c'est un peu pareil. Et donc du coup, on s'est dit, il faut à un moment donné se structurer pour avoir des moyens propres au service du collectif et de faire avancer ces éléments-là. Donc d'où le choix de créer En Transition.
Et on parle de transition vers des façons de vivre, de consommer, d'être peut-être plus solidaire, plus écologique aussi.
C'est ça, c'est-à-dire que, quand on en parlait en 2009, c'était un peu les gens avaient du mal à comprendre de quoi on parlait. Et puis là, depuis 2 ans, après la COP21, ou pendant 1 an, les gens ont été un peu matraqués de ça. Ça a mis du temps un peu à mûrir. Il y a eu le documentaire de Cyril Dion, Mélanie Laurent, Demain, qui justement a beaucoup marqué les esprits. Et Demain en poche, c'est aussi une référence, un clin d'œil à ce documentaire. On sent qu'aujourd'hui, tout le monde se dit, on voit bien qu'on va pas pouvoir continuer comme avant, qu'il va falloir changer des choses. Mais on ne sait pas forcément exactement comment s'y prendre, comment faire. Et la transition, c'est ça. C'est comment on arrive à changer notre modèle de société et à aller vers un modèle de société plus adapté à notre planète et plus convivial.
Donc ça, c'est les actions que vous menez au quotidien, toute l'année. Comment l'idée de créer un guide actualisé avec 350 initiatives qui sont en 10 thématiques aussi, comment elle est arrivée pour ce nouveau guide de Main en Poche ?
C'était une idée qu'on avait en germe un peu depuis très longtemps, parce que justement toutes ces initiatives que nous on identifiait, on connaissait, parce que on fait longtemps qu'on est sur le terrain, qu'on organise des événements, qu'on les invite.
C'est votre domaine aussi.
On voyait qu'il y avait tout ça, mais on se rendait compte qu'en fait c'était trop peu connu, c'est beaucoup d'initiatives petites, émergentes, très peu connues et isolées les unes des autres, c'est-à-dire qu'il y a les spécialistes de l'énergie qui connaissent tout par cœur, les spécialistes du bio qui connaissent tout par cœur, mais les gens ne se connaissent pas forcément entre eux, font pas les liens, et du coup notre objectif, c'est aussi de montrer que tout ça participe d'une même dynamique. Donc il y avait à la fois cette envie de montrer que ça faisait partie d'une même dynamique et que il se passait quelque chose, qu'il y avait une cohérence dans tout ça, et puis là tout à l'heure je croisais une lectrice justement qui me disait on se rend compte quand même qu'il y a plein de choses et qu'on n'est pas tout seul en fait et que j'aurais pas cru, etc. Et il y a aussi ça, c'est-à-dire que notre objectif nous c'est d'encourager, de valoriser et d'accompagner les engagements citoyens, les initiatives locales. Et c'est vrai que quand on se sent pas tout seul, c'est beaucoup plus motivant de se dire moi je fais ça à ma petite échelle, j'ai l'impression que ça sert à rien, mais en fait si on est beaucoup à le faire en même temps, ça joue quoi.
Ouais, et puis de voir aussi qu'il y a des domaines qui peuvent être très très variés. Il y a des choses même en lien avec le spectacle, auxquelles on ne pense pas tout de suite dans les initiatives que vous avez mises en avant quand on pense transition écologique.
Oui, parce que en fait, c'est, déjà, c'est justement ces transitions solidaires et écologiques. Mmh. Et ça, c'est des choses, le lien entre écologie et sociale, c'est des choses qu'on porte justement depuis le début. Et 10 ans après, on se dit que les choses ont avancé parce qu'on a un ministère de la transition solidaire et écologique. Donc ça veut bien dire que ce que ça veut dire. Et on l'a bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes, les marches climat. Il y a eu ces débats, ces questions dans la société. Et on voit
bien
que
c'est opposé ou non.
Voilà, et on voit bien qu'on peut pas réussir à faire une transition écologique sans tenir compte des conditions sociales, des bouleversements économiques qui vont se passer, certaines industries qui vont forcément dépérir et des nouveaux métiers qui vont émerger. Donc comment on accompagne tout ça et comment on fait en sorte que chacun puisse du coup avoir accès à un mode de vie soutenable et en même temps on peut pas être en perpétuel chantage à l'emploi et empêcher le fait qu'on avance sur les questions écologiques parce qu'à un moment donné ça nous retombe dessus et finalement tout le monde en est victime. Donc il y a vraiment besoin de faire le lien entre tout ça. Et du coup, les acteurs culturels, ils jouent de ça parce que à la fois, le spectacle vivant, ça crée du lien social, c'est mieux que chacun soit devant sa télé. Il y a ce côté-là de rencontre, de tisser des liens dans son quartier, parce que plus on a de liens et plus on est en capacité de résister aux coups durs qui peuvent nous arriver. On le voit quand il y a des catastrophes naturelles, l'entraide qui se passe entre les gens. Et s'il n'y a pas des liens qui sont tissés avant, entre les gens, forcément ça sera plus difficile de résister aux chocs qui pourront nous arriver. Et puis la deuxième élément aussi qu'on peut dire sur ce côté culturel, c'est justement qu'un changement de société, c'est un changement d'imaginaire, c'est un changement dans nos têtes de quel mode de vie je me projette et comment je suis capable de me dire que ça va pouvoir être bien autrement. Et donc du coup il y a tout ce travail sur l'imaginaire, sur les représentations, sur la valorisation de certains modes de vie pour lesquels les acteurs culturels jouent beaucoup.
Et à qui s'adresse ou peut s'adresser ce guide Demain en poche ?
Bien, on voudrait qu'il s'adresse à tout le monde, bien entendu. Forcément, on se doute bien que les personnes qui vont le lire ont un minimum fait un petit mouvement parce que si on est complètement éloigné de ça, qu'on s'y intéresse pas, on va pas le lire. Mais l'idée, c'était pas de s'adresser aux gens qui connaissent déjà tout par cœur, qui sont convaincus. L'idée, c'était de pouvoir s'adresser à tout un chacun. On sait bien, nous, dans les repas de famille ou avec les copains d'une association sportive, etc. On est dans la société, hein, on côtoie nos amis, notre famille, et on voit bien que tout le monde n'est pas au même niveau de compréhension, de conscience, de ce qu'ils peuvent faire.
On ne sait pas par où commencer.
Même si ça bouge beaucoup. Mm-hmm. Et du coup, l'idée, c'était de dire, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de faire quelque chose, qui voient qu'on ne peut pas faire autrement. Ils ont regardé Cache Investigation sur les plastiques, ils en parlent avec leurs collègues le lundi, ils ont regardé des documentaires, ils se disent, il faut faire quelque chose, mais ils ne savent pas. Parce que, ils ne connaissent pas les associations, ils ne savent pas comment on fait, comment est-ce qu'on fait pour acheter en vrac, mais comment je transporte les trucs et donc du coup c'est comment on leur donne des éléments pratiques, des conseils, des bons plans, des astuces et puis des portes d'entrée. Donc c'est ça, ces 350 initiatives locales, c'est des portes d'entrée. On n'a pas l'ambition d'être totalement exhaustif parce que forcément il y a plein d'initiatives qui naissent chaque jour, etc. Mais c'est des portes d'entrée pour démarrer à se mettre en action et puis chacun à son rythme en fonction de ses modes de vie parce qu'il n'y a pas un mode de vie idéal pour tout le monde. Mmh. Si je suis une famille nombreuse, si j'habite à la campagne, si j'habite en centre-ville, si je suis étudiant, forcément chacun a un mode de vie différent et donc chacun va trouver des solutions différentes.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours des initiatives locales. On va voir un peu plus ce qu'on trouve dans ce guide, mais avant je te propose, Michael, et à vous qui nous écoutez, d'écouter un morceau. C'est Find an Island de Benny. A ship back past the sea, where nobody goes, no search but deep. Nobody knows but me. Both share a single rope, trying to stay afloat. The treasure that you blew when I was tied to you. We reeled each other in, got caught up in the wind. Our sails they pulled to hide. And we fell off our raft. If our own mistakes are too much to take, if it just won't work and we can find a way, maybe our maps go different ways, go different ways. Find an island far away from me.
a ship wrecked us to sea, where nobody goes, no search party, nobody knows but me, on an island far away from me, a ship wrecked us to sea, where nobody goes, no search party, nobody knows but me. Drifted off, putting us on the rocks. No longer want to know where you make plans to go. I built this boat to live. You chose to move too fast. A storm has swept right through and washed away your view. If our own mistakes are too much to take, if it just won't work and we can find a way, maybe our lives go different ways, go different ways. Find an island far away from me, a shipwreck that's the sea, where nobody goes, no search party, nobody knows but me. Find an island far away from me, a shipwreck that's the sea, where nobody goes, no search party, nobody knows but me. Fun and island, fun and island. And if our own mistakes are too much to take, if it just won't work and we can't find a way, maybe our maps go different ways, go different ways. Fun and island, far away from me, a shipwreck that's the sea, where nobody goes, no search party, nobody knows but me. On an island far away from me, a shipwreck that's the sea, where nobody goes, no search party, nobody knows but me.
Vous écoutez Radio G sur le 101.5 et l'oreille curieuse. On vous propose ce soir de passer en transition vers un monde plus solidaire, plus écologique, avec le guide Demain en poche. J'en parle toujours avec Mickaël. Mickaël, on se disait alors il y a 300 pages, non 200.
208.
208, exactement. Et 350 initiatives, toutes dans le Maine-et-Loire, qui sont regroupées sur 10 thématiques qui sont très transversales. Il y a se nourrir, le transport, prendre soin de soi, l'éducation, plein de choses. Est-ce que tu peux nous parler un peu du choix de ces thématiques ?
C'est toujours très difficile de choisir des thématiques, mais en tout cas, l'idée, c'était de montrer que ce changement de mode de vie, ça implique tous les domaines de la vie quotidienne à la fois et à chaque fois. L'idée, c'est de montrer que c'est aussi à titre individuel, mais aussi à titre collectif. C'est important aussi pour nous de montrer qu'il y a des choses qu'on peut faire individuellement, changer ses comportements, consommer autrement, et puis il y a des choses qui peuvent se faire de manière collective, que ça soit par exemple les AMAP, l'habitat participatif, le covoiturage, de nouveaux modes d'organisation, de consommation. On parle des radios associatives, c'est une radio qui fonctionne parce qu'il y a des centaines de bénévoles qui s'organisent autour. Donc c'est montrer comment on peut faire des choses individuelles, mais aussi on peut s'engager dans des actions collectives pour aboutir à des belles initiatives.
Et est-ce que ça a été difficile, j'imagine, ou peut-être pas, de choisir ou de rencontrer toutes les initiatives dont vous parlez dans le livre ?
Non, parce qu'en fait, comme on disait, ça fait 10 ans, voire plus, qu'on parcourt le territoire, qu'on rencontre ces initiatives, qu'on organise des événements, où on les découvre, etc. Donc, c'est un travail collectif aussi. Chacun peut-être connaissait mieux certaines thématiques, certains territoires. Donc, ce travail d'inventaire a pas été spécialement compliqué. Il suffit de se baisser pour ramasser, entre guillemets. Non, mais il y a vraiment beaucoup d'initiatives. Et il s'en fait tout le temps, donc il n'y avait pas trop de difficultés par rapport à ça. L'idée, c'était de se dire il n'y a pas d'initiative parfaite, ce qui compte, c'est qu'on avance. Et du coup, ce qu'on dit dans l'intro du guide, c'est que chacune de ces initiatives, à son niveau, elle apporte quelque chose dans son territoire ou dans son domaine qui fait avancer le schmilblick.
Oui, on peut parler de zéro déchet, il y a des choses sur les banques, il y a des choses sur comment faire sa communication soi-même, sur l'éducation, la grossesse, tout en fait.
Oui, c'est ça. J'ai un autre lecteur qui, du coup, était très engagé à titre associatif dans les questions d'énergie. Il avait bossé dans ce domaine-là, il était engagé dans des associations, etc. Et puis là, du coup, il a eu des jumeaux. Du coup, il s'est mis complètement en retrait de ça. Mais en fait, il était content, finalement, dans le guide, de découvrir cette rubrique « Accompagner l'enfance ». Qui n'était pas celle auquel il aurait pensé un an plus tôt. Oui. Mais voilà, il se rend compte que y a des choses intéressantes à faire avec les pédagogies actives, Montessori, etc.
Et ce guide, vous l'avez créé de A à Z avec En Transition. Il est aussi autofinancé. Vous êtes passé par une campagne de financement participatif.
C'est ça, c'est un travail collectif, mais auto-édité, quoi. C'est-à-dire que on a fait les contenus, on a fait la mise en page avec une bénévole qui nous a fait une maquette vraiment extraordinaire. Enfin, tous les retours qu'on a, les gens disent c'est vraiment très agréable, c'est aéré. Et là aussi, ça comptait pour nous parce qu'on voulait en faire un bel objet. C'est pour ça que le financement participatif, ça a duré un certain temps. Mais on a mobilisé plus de 300 contributrices et contributeurs pour faire aboutir ce projet. Et donc, ça montre l'effet de la solidarité pour avoir un bel objet, parce que justement, on veut pas que ça soit un truc que pour les gens qui connaissent déjà et qui sont convaincus. On veut qu'on puisse l'offrir à des amis. Les fêtes arrivent bientôt, donc c'est vraiment le type de cadeau idéal, avec un discours qui est pas moralisateur, qui est justement expliquer ce qui existe, et puis après chacun prend ce qu'il veut prendre s'il a envie.
Oui, dès qu'on l'ouvre, on voit vraiment, je le dis sincèrement en l'ayant un peu feuilleté, on peut piocher dans tel endroit, dans telle thématique, et puis si on veut passer à autre chose, c'est pas grave, on passe à autre chose. Il y a même des coiffeurs.
Oui, je suis pas sûr que ça soit forcément un guide. Ça, c'est pas forcément fait pour lire de la page 1 à la page 208. Il y en a qui le font, très motivés, mais c'est quelque chose qu'on peut, à un moment donné, tiens, on a un quart d'heure, on ouvre une thématique et puis on parcourt un petit peu comme ça. Donc même les photos, la plupart, c'est nous. Et puis pour les illustrations, on a fait appel à une illustratrice locale, parce que le but, c'était d'aller au bout de la démarche, donc on a fait appel à une illustratrice locale. Donc bien sûr, là j'ai le
Agnès Aymon,
avec une couverture qui est chouette, et on retrouve à chaque fois en tête de chapitre une illustration par rapport aux thématiques, et ça donne vraiment un truc sympa. On l'a auto-édité et on l'a imprimé à l'atelier du papier recyclé, qui est une imprimerie locale aussi.
Tout fait main, tout fait ensemble. Enfin, fait main avec des massicots et tout. maintenant qu'on a super envie de découvrir Demain en poche, Mickaël, où est-ce qu'on peut le trouver ? Il coûte 10 euros, livre, ce guide.
C'est ça. Ça coûte 10 euros. Alors, vous pouvez soit le commander en ligne sur demainenpoche.fr et ensuite le récupérer lorsqu'on organise des événements. Soit vous pouvez aller l'acheter directement auprès de nos partenaires, donc Biocop La Pyramide au Pont-de-Cé, Same le Salon de Thé
rue de Larro,
l'épicerie de Pauline rue Saint-Julien à Angers, le Vélo Bar rue Bressigny à Angers, Mon Bio Camion, qui est un camion itinérant de produits vrac et qui est sur le marché Place Lafayette le samedi matin, mais qui est aussi dans tout le Sud-Loire sur plein de points différents. Il est également au marché de Cocagne à Saint-Barthélemy, et puis il devrait être prochainement à la librairie Contact.
Pas mal.
Si vous êtes intéressé pour distribuer le guide, vous pouvez aussi sur notre site demainenpoche.fr, vous retrouverez les contacts, nous signaler pour diffuser dans votre commerce, votre librairie, etc.
Et avant de se quitter, je me suis demandé aussi, Mickaël, je me suis dit, allez, on peut prendre un petit 2 minutes de l'émission. Quel serait l'aspect, d'après toi, qui serait le plus urgent de changer si on a envie d'être en transition ? C'est dur, hein ? Sachant qu'il n'y a pas de règles. Tu nous as dit, ça dépend des modes de vie.
Oui, il n'y a pas de règles, et puis ça dépend de ce à quoi ce qu'on a envie de faire. Sans doute, mais c'est peut-être le plus compliqué. Moi, c'est la question du régime alimentaire. Mm-hmm. Il y a cette question de réduire sa,
la consommation de viande,
mais aussi de produits, animaux. Voilà, mais par exemple, voilà, moi, je mange toujours de la viande, mais j'ai beaucoup réduit ma consommation de viande depuis plusieurs années. Mais par contre, je bois encore beaucoup de lait, par exemple. Et voilà, je devrais idéalement réduire ma consommation de lait. Mais vous voyez, en fait, on est pris dans ces contradictions. Et ce qui est important, c'est de pouvoir faire ce qui nous semble possible.
Oui.
Après, du coup, on peut aussi profiter de l'actualité du moment pour découvrir le covoiturage, la trottinette, le vélo électrique, pour se déplacer quand ça devient plus compliqué de se déplacer autrement.
La marche à pied, voilà. Tout ce que vous voulez. Oui, et puis il n'y a pas une meilleure façon d'être en transition. Ça va. C'est pas parce qu'on coche pas toutes les cases de quelqu'un d'autre.
Non, voilà. Il y a ce débat entre manger bio, manger local. Et en fait, voilà, idéalement, on pourrait manger bio, local, de saison, sans viande, etc. Mais après, voilà, ce qui compte, c'est que, on avance et que si on mange auprès de notre producteur local, qui est peut-être pas certifié bio, mais qui est dans une démarche et on en discute avec lui et on le fait avancer aussi dans sa démarche, c'est positif.
Ouais, il n'y a pas de police de l'écologie, vous voyez ça.
Exactement.
Avec vous-même. Et adhérer à NAMAP, c'est super. Voilà, ça c'est mon conseil personnel. Mickaël, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Demain en Poche donc, est disponible dans tous les lieux que tu as indiqués sur demainenpoche.fr.
Voilà.
Tous les liens seront à la page de l'Oreille Curieuse sur le site de Radio G. Et sinon, on retrouve toutes les infos sur le site de En Transition.
Exactement.
Merci beaucoup. On va écouter Butterfly de Léonie Pernet avec un remix de Malik Judy. Et après, on va retrouver Benoît et sa chronique Science, Nature, Environnement.
Au revoir.
Oh,
on entend le délicieux générique, ouais délicieux carrément, de la chronique science, nature, environnement de Benoît qui vient conclure cette semaine de l'oreille curieuse. Salut Benoît.
Salut Annie et bonsoir à tous.
Ça va bien?
Ben ça va très bien.
Super.
Il fait un peu froid mais ici on est bien.
C'est de saison.
Ouais c'est de saison. Attention, il y a beaucoup de brouillard ce soir.
C'est vrai. Mais c'est assez
pour ceux, je dis ça pour ceux qui nous écoutent en voiture, bien évidemment.
En vélo, on n'écoute pas normalement.
Normalement, c'est interdit.
C'est dangereux. Quelles sont les nouvelles que tu as apportées dans ta
chronique? Il y en a quelques-unes, hein. Tu sais bien, comme d'habitude. Alors,
que
c'est
tu
malgré
es bavard.
Tout une sélection. En plus, je suis bavard, ça déborde. Mais on va essayer de condenser tout ça.
Okay.
Dans le temps imparti. Alors attention,
on se lance.
Tu es la maîtresse du temps.
Eh bien, nous avons 10 minutes et 3 secondes.
Alors, on y va. Donc, des petites infos agenda pour s'occuper intelligemment à Angers, hein, ça peut arriver. Une conférence le 11 décembre. C'est
mercredi.
Bientôt, mercredi prochain, à l'Institut Municipal, donc une conférence, je crois qu'il y a un cycle sur l'alimentation, et cette fois c'est le thème « Équilibre alimentaire et cancer ».
Mmh.
On entend beaucoup de choses sur ça, sur la malbouffe, les aliments qui, entre guillemets, nous rendraient malades. Bon, là, on aura l'occasion d'écouter le docteur Guérin Meyer, donc, qui est gastro-entérologue à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Donc lui, c'est un peu son métier, il est spécialiste.
Oui, et je crois que c'est une femme qui est interviewée la semaine prochaine dans le Mug,
okay.
Matin.
Voilà,
j'ai
super.
Appris l'info tout à l'heure.
C'est très bien. Donc, ça sera l'occasion, elle fera un point hein, sur la nutrition dans son ensemble, hein, y compris tout ce qui va autour, hein, parce que la nutrition, ça ne marche pas tout seul. Hein, y a la consommation festive, on va dire, la consommation d'alcool, d'autres substances, les activités physiques, est-ce que le surpoids, c'est un facteur aggravant, etc. etc. Donc, bon, elle fera le point là-dessus, et ça sera aussi l'occasion de débattre et de poser des questions. Donc, rendez-vous à l'Institut Municipal le 11 décembre à 19h30.
Ouais, et ça voilà. S'annonce vraiment intéressant.
Tout à fait. Autre chose assez intéressante, alors là, ça s'adresse aux plus jeunes, mais aux plus jeunes et aux parents.
Allez.
On y va. Ce week-end, à partir d'aujourd'hui, c'est le forum de l'orientation d'Angers. Ça se passe au Parc des Expos et ça s'adresse à tous les jeunes qui sont, on va dire, perdus ou pas, hein, mais à partir, on va dire, de la quatrième jusqu'au bac. Qui cherchent à s'orienter, qui hésitent entre différentes voies ou qui sont complètement perdus parce qu'il y a trop de choses et puis ils aiment tout, ils savent pas quoi faire.
Ou qui veulent rencontrer des gens d'une certaine filière.
Et donc là-bas, on peut rencontrer beaucoup d'établissements scolaires, du secondaire, du supérieur. Les filières sont présentées, etc., etc. Donc c'est l'occasion pour les jeunes, avec ou sans leurs parents, mais pourquoi pas avec leurs parents, parce que c'est ouvert samedi aussi, eh bien, d'aller rencontrer ces professionnels et pour discuter, réfléchir par rapport à ses envies, et puis surtout essayer de se construire un avenir, quoi.
Oui.
Voilà, ça doit pas être tout noir, ça, donc il faut aller découvrir, voir, et puis
poser des questions. Et même si on est perdu, à la fin, on s'en sort.
Exactement. Donc voilà, très important pour ceux qui se cherchent. Pour la jeunesse, autre actu, alors il y a une expo en ce moment à voir à la Maison de l'Environnement qui s'appelle « Trop de déchets dans nos poubelles ». Donc voilà, c'est une exposition, elle dit ce qu'elle a à dire.
Tout est dans le titre.
Il y a une malle éducative aussi en plus qui est proposée par Terre des Sciences, donc Terre des Sciences d'Angers, qui fait le point sur nos rapports aux déchets et surtout comment les limiter. Alors à propos de déchets, justement... les mercredis 11 et 18 décembre, toujours à la Maison de l'Environnement, il y aura un atelier zéro déchet. Donc, ça dure tout l'après-midi. Ça s'appelle « Mon premier Noël zéro déchet ». Ouais.
Et oui, car Noël, voilà. C'est source de déchets en général.
C'est la période, c'est le Noël gaspillage, déchets en abondance, containers remplis, ça déborde de partout. Donc,
donc
en général, les fêtes
année.
De Noël, c'est aussi les fêtes des déchetteries. Hein.
Ouais.
Surtout les lendemains. Bon, bref, donc là, comment limiter tout ça? Voilà. Alors, l'intérêt, c'est que ça se passe en plein centre-ville, puisqu'en ce moment, c'est le marché de Noël. C'est au salon Kurnonski. Donc, derrière la poste centrale, un peu plus haut, là, entre la rue Saint-Thomas. Ça se trouve assez facilement, place Maurice-Saillant. Donc, c'est entrée libre dans la limite des places disponibles. Voilà.
Très bien. Merci.
Donc, ça, c'est deux petites activités. Alors, bon, le reste, vous déambulez dans la ville et puis il y a toujours plein de choses à faire. Des actus scientifiques ?
Ah bah oui, moi je n'attends que ça, mais si, on a du temps.
Alors, on y va. On va parler un peu géographie, enfin sociologie peut-être, je ne sais pas trop dans quelle case on met ça, on n'est pas obligé de mettre ça dans une case. Figure-toi que j'ai lu un article, enfin un rapport article sur la démographie nord-américaine, mm-hmm. et elle est en baisse, hein. Les États-Unis perdent de la population.
Des habitants, des...
Alors, c'est surtout que la natalité descend, elle est en baisse, et ainsi que les avortements qui sont à un niveau historique très très bas, qui a presque jamais été observé. Tu vas me dire, c'est bizarre, la natalité baisse et il y a moins d'avortements. Mais alors, ça s'explique, on va en discuter. Donc ça fait plusieurs années que ça baisse, hein, les femmes connaissent moins de grossesses. Donc c'est des analyses qui ont été publiées par, alors je vais le dire en anglais, les Centers for Disease Control and Prevention. Mm-hmm. Donc c'est sans doute un organisme public, voilà, on doit avoir l'équivalent en France.
Ouais.
Donc depuis trois décennies, bah, le taux de natalité aux États-Unis a atteint son niveau le plus bas. Donc il compte en 2018 3 791 712 naissances. Mm-hmm. C'est inférieur de 2% à l'année 2017, l'année précédente. Donc c'est la quatrième année consécutive de baisse. Même chose pour les avortements qui ont chuté, et notamment 623 471 avortements en 2016, donc c'est en baisse aussi, et c'est le nombre d'avortements le plus faible depuis 73.
D'accord, après il peut y avoir, j'imagine, plusieurs causes.
Il y a sûrement plusieurs causes. Alors la première, c'est évidemment l'amélioration dans la contraception, la prise en compte de la contraception, notamment chez les jeunes. Hein. Mmh. Voilà, il y a une cause aussi qui est que il y a eu une sorte de baby boom en 2000, mmh. puisque il y a beaucoup de
année
gens qui ont voulu avoir des enfants en 2000. Je ne sais pas comment on explique ça.
The millennials.
Mais voilà. Et les jeunes nés en 2000 ont moins d'enfants. Enfin, ils sont encore jeunes aujourd'hui, mais c'est, par exemple, on trouve une plus faible proportion d'adolescentes qui ont des enfants dans cette frange-là. Donc, il y a moins de grossesses précoces. Et voilà. Alors, il y a une hypothèse aussi qui dit que les adolescentes auraient moins de relations sexuelles. Je ne sais pas comment c'est mesuré. Mais en tout cas, les jeunes ont sûrement un meilleur accès aux formes de contraception d'aujourd'hui qui sont efficaces et...
Bah, c'est ce qu'on espère.
Bien prise.
Ouais, parce qu'aux États-Unis, il y a aussi eu, dans divers États, des remises en question de l'avortement.
Et de la contraception aussi.
Ouais. Ouais.
C'est compliqué. Mais alors, du coup, ça pose quand même un problème démographique, hein, parce que l'idée dans un pays, c'est de maintenir ce qu'on appelle le niveau de remplacement, hein, pour que la population soit stable, hein, en chiffres. Donc ça assure aussi un revenu fiscal, hein, pour le pays. Donc là, une natalité trop baisse, bah, ça fait non seulement de la main d'œuvre à remplacer, de la main d'œuvre qu'on n'a plus, et aussi des recettes fiscales insuffisantes. Donc un taux de natalité élevé, c'est l'inverse. Ça peut entraîner des pénuries de ressources, mmh. et par
D'espace.
Contre, plus de revenus fiscaux pour les États. Donc c'est assez intéressant de voir que, bah oui, dans un pays développé, en Occident, y a ces problèmes, ces problèmes qui se posent. Ça serait intéressant aussi de voir comment ça se passe en Europe de l'Ouest. Alors évidemment, je pense que c'est pareil. On dit souvent que, alors j'ai pas les chiffres, j'ai pas recherché les informations, mais que la population vieillit, ça reste à mesurer. Et c'est tout ça à mettre en perspective, évidemment, avec plein d'autres endroits dans le monde où ça augmente énormément, de manière même exponentielle.
Parce qu'à l'échelle mondiale, on est de plus en plus nombreux.
Exactement. Donc voilà, c'est aussi à mettre en perspective, bien évidemment, avec les mouvements de population à l'échelle de la planète. Ça va être très compliqué dans les décennies à venir de vivre en vase clos sans forcément accepter les mouvements de population.
À 10 milliards.
Exactement, ça va être très très compliqué. Et donc les tenants de l'Occident fermé, clos, avec le maintien
avec
du niveau
murs.
De vie actuel, voilà.
Faut se remettre en question.
C'est pas le débat du jour, mais voilà, ça pose toutes ces idées. Donc c'est une étude intéressante qui peut faire parler, peut-être dans les classes d'histoire géo, hein, pourquoi pas. Alors j'ai une autre information, alors celle-ci qui est assez curieuse, du coup on va parler dopage, j'ai déjà parlé dans les chroniques de dopage il y a longtemps, J'ai encore un peu de temps.
Allez, on va déborder un peu pour le dopage.
Ouais, voilà. Ah, puis la dernière qui était passionnante, ça sera pour la prochaine fois. Elle concerne un dopage. Alors cette fois, pas un dopage sportif, un dopage professionnel. Dans une profession particulière, les marins pêcheurs.
Ouais.
Alors, c'est vrai que c'est un sujet tabou. C'est assez sensible dans la profession, mais depuis plusieurs années, une dizaine d'années, on a constaté que l'usage des stupéfiants chez les marins pêcheurs s'est développé. Donc, et c'est vraiment une action qui est prise en compte par les pouvoirs publics. C'est parce qu'il y a un réel danger, hein, bien évidemment. Donc le métier de marin pêcheur, c'est compliqué. Les gens partent parfois plusieurs jours ou semaines en mer, et donc il y a une hypothèse, c'est que bah, ils prendraient des substances pour qui les aideraient à tenir, en fait,
tenir
physiquement. Voilà la difficulté du métier. Un autre enjeu serait aussi le fait que bah, quand on est en mer, on est tranquille. Hein, Il n'y a pas la brigade des stupes et tout. Mais c'est quand même compliqué parce que c'est un métier dangereux. Il faut tout le temps être maître de soi. Hein. Et donc il y a des campagnes de prévention pour les marins pêcheurs. Donc en 2013, il y a eu une campagne qui s'appelait Pas de ça à bord. Donc et ils ont mesuré les teneurs en stupéfiants chez des marins, notamment les marins de moins de 35 ans, et donc ils étaient positifs, à 46% positifs au cannabis et 8% à la cocaïne, donc c'est quand même des chiffres énormes. Donc là, il y a tout un tas de choses qui se mettent en route pour la prévention, pour faciliter ça. Alors, une autre des explications est que, en fait, les marins pêcheurs, finalement, c'est un métier difficile, mais qui est depuis quelques années assez bien rémunéré. Un matelot, hein, c'est-à-dire que je pense que le matelot, c'est la base, en fait, du marin pêcheur. Il gagne entre 2 500 et 3 000 euros net par mois, sachant qu'il passe beaucoup de temps en mer. Il est moins sur terre à dépenser son argent, donc le temps qu'il passe sur terre, il a beaucoup d'argent, en fait. Et du coup, on pense aussi que ces gens-là sont des proies assez faciles pour les dealers et les gens malveillants qui cherchent à vendre les substances, quoi. Donc voilà, c'est compliqué. Maintenant, dans les recrutements, il y a des tests, des tests urinaires, des tests sanguins, et les gens peuvent être recalés, en fait, si les résultats des tests, des détections de stupéfiants sont positifs. Mais bon, voilà, c'est une information. Le dopage, c'est pas que dans le sport. Il y a beaucoup de gens dans la vie de tous les jours, en fait, on le sait beaucoup moins, mais qui se dopent avec des médicaments, avec des... la vie, c'est pas toujours facile, mais ça peut être dangereux pour la santé.
Oui, et pas que les marins pêcheurs, il peut y avoir
bien
différentes...
Bien sûr, on stigmatise pas la profession, bien entendu. Il y a simplement une étude et des campagnes qui ont été faites autour de ça, étant donné les risques de ce métier.
Waouh. Eh bien, merci Benoît. T'avais d'autres infos, c'est ça?
Ouais, mais ça sera pour jeudi dans 15 jours.
Ok, merci beaucoup. Bonne soirée.
Ouais, bonne soirée.
Et puis, hâte de connaître ces infos. Moi, je vous laisse avec la programmation musicale de Radio G. C'est Four Tet Daughter, actuellement. On se retrouve lundi à 18h10 dans l'Oreille Curieuse et on sera avec les vignerons, vigneronnes de Anjou Connexion. D'ici là, toutes les infos, les podcasts sont sur le site de la radio. Bonne soirée, bon week-end, à lundi.